Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Oui, de retour sur RMC, RMC Story, canal 23 avec Rémi Barre et Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux avec vous, bien sûr, au 32-16 pour réagir à tous nos débats et notamment cette polémique après l'arrivée d'un fast-food KFC en plein centre de Limoges. Est-ce qu'il faut sanctuariser nos centres-villes, justement? On vous attend également sur l'application RMC, rubrique direct studio. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi et on parlera du partage des abonnements. Les abonnements Netflix par exemple. Alors c'est très économique mais ça peut être très risqué également. Stéphane nous expliquera tout ça. À 14h, le boom du tout électrique sur nos routes alors même que les prix de l'électricité flambent. Est-ce qu'on a tout faux sur ce sujet? On sera avec Pierre Chasseret dans cette émission. 14h30, RMC s'engage pour vous et Amélie Rosy qui va tenter d'aider Romain. Romain est handicapé et il vit un enfer car son immeuble justement n'est pas adapté à son handicap. Et puis on vous fera gagner des cadeaux Apple dans cette émission.
Oui, nous continuons notre jeu du coffre RMC tout au long de la semaine dans toutes les émissions. Nous continuons donc ce jeu du coffre avec des produits de la gamme Apple à gagner vers 14h40. L'un d'entre vous sera à l'antenne avec nous et il remportera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et à partir de ce moment-là, vous aurez le choix. Soit vous gardez votre cadeau, soit vous le remettez en jeu, vous y renoncez. Mais là, vous pouvez tenter d'ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou l'iPhone 14 Pro Max. C'est le top du top de l'iPhone pour jouer. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC et on va parler de la polémique du jour. Ça se passe à Limoges où un fast-food KFC devrait bientôt voir le jour en centre-ville. Une installation qui suscite la colère des riverains qui craignent des nuisances et surtout un déclassement de leur centre-ville, Rémi.
Exactement, divers sujets de protestation. Tu l'as dit, la diversité de types de commerces réunis en centre-ville de Limoges, les nuisances, mais aussi ceux qui voient dans cette éventuelle implantation du numéro 1 du poulet frit, place de la République à Limoges, le triomphe de la malbouffe. C'est le cas du maire LR de la ville. Il s'appelle Émile Roger Lomberti. Il est ancien médecin, très attaché au label Ville Santé Citoyenne qu'a obtenu sa commune, d'autant que dans une rue adjacente de la place de la République, on trouve déjà un restaurant au tacos, ainsi qu'un quick, ainsi qu'un vendeur de donuts. Le maire a bien envisagé de faire jouer le droit de préemption de la ville, qui lui donne le droit d'être prioritaire lors de rachat de locaux. Oui. Mais finalement, la commune a abandonné parce que trop cher. Il aurait fallu racheter le fonds de commerce, soit 380 000 euros, puis débourser 100 000 euros pour le loyer et la taxe foncière. Seule solution pour la municipalité. Elle a exigé qu'une autre enseigne locale propose une nourriture de qualité et qu'elle soit associée au KFC. Elle a promis qu'un arrêté pour canaliser les nuisances par les livreurs à vélo, tu sais, parce que il y a beaucoup de livreurs à vélo et pas qu'en vélo, parce que parfois c'est aussi avec des deux roues motorisées. Un arrêté devrait être pris pour réduire ces nuisances.
Alors, faut-il sanctuariser nos centres-villes? C'est la question que l'on vous pose dans Estelle Midi, Perico Légas.
C'est un fléau de civilisation avec des conséquences dramatiques. L'américanisation de nos mœurs alimentaires, c'est-à-dire l'introduction institutionnelle de la malbouffe avec des enseignes qui sont très mobilisatrices, c'est comme la marque de pâte de noisette italienne. Et là, les deux symboles que sont KFC et les sandwichs, c'est alors. Ils ont le droit d'exister, il en faut partout. Ça fait très longtemps qu'ils sont partout en France. Quand McDo a ouvert à Chinon, capitale de la Rablaisie, ça a été un choc. Je vous rappelle que oui, ça a été un choc. Mais c'est quand même de la merde.
Et alors,
on n'est pas obligé de promouvoir de la malbouffe.
D'abord, c'est pas de la merde. McDo, par exemple, il bosse beaucoup avec des agriculteurs français.
Quand je dis merde, c'est un symbole pour dire que quand je dis merde, ça veut dire que nutritionnellement, c'est pas d'aller
bonne. Tu peux manger une salade?
Non, parce que
c'est. Quand tu es dans une brasserie,
c'est pas le problème, Estelle. C'est pas le problème, Estelle. Non, c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que c'est pas cher et que les pauvres, ils mangent ça. Et qu'on donne aux pauvres. Il n'y a pas que les pauvres qui mangent ça.
Les brasseries ont gagné.
Non, justement.
C'est pas réservé.
Non, je dis que les libéraux comme toi sont ravis de donner des KFC. et des...
La flatterie
et des...
n'a pas de prix.
Non. Ça, c'est très bien. Donc, les pauvres, eux, ils peuvent manger de la malbouffe. Voilà. Et puis, on réserve la bonne bouffe aux bourgeois et aux gens qui sont nantis.
Et bah, les brasseries, je vous rappelle. Hein, les brasseries en quête moins cher. Je suis désolé, Péricopassy.
Mais je dis pas
quand
le contraire. Je vous dis. Je vous dis que je trouve très bien qu'un maire républicain dise, on va pas détériorer mon centre-ville avec des enseignes qui donnent à manger à des gens à faible revenu une nourriture infâme.
Ce que tu fais, Périco, c'est du délit de sale gueule.
Emmanuel Dancourt.
C'est du délit de sale gueule, ce que tu fais.
En quoi délit de sale gueule?
On est sur un centre-ville où il y a déjà, Rémi l'a dit, un Quick et un Otakos. Donc c'est déjà là. De toute façon, ce combat-là, il est déjà
mais
perdu.
Mais non, justement,
le centre-ville de Limoges, il est cher. Ils n'ont pas réussi. Il n'y a personne d'autre qui arrive à payer les loyers, si ce n'est les grandes marques. Tu ramènes un KFC. Je déteste ce genre de truc. Mais cela dit, tu ramènes un KFC, tu ramènes la jeunesse en centre-ville.
Mais non, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Pour vous, c'est ça la jeunesse.
C'est vraiment un combat.
C'est
un combat d'arrière-garde.
Vous avez dit il y a deux minutes que les films n'étaient pas bons.
C'est un combat d'arrière-garde que tu mets. À Dijon, il y a 30 ans, quand le McDo est arrivé, c'est marrant, le problème, c'était surtout esthétique. Qu'on a c'est un très, très beau centre-ville, Dijon, historique, ancienne capitale des Ducs de Bourgogne, et rue de la Liberté, d'un seul coup, McDo arrive il y a 30 ans. Et en fait, ça a été l'esthétique le problème, et ils ont réussi à intégrer l'esthétique. Il y a des McDo magnifiques, d'ailleurs, maintenant.
Bien sûr.
Dans des endroits.
Il y a l'uniformisation aussi.
Non, mais dans des endroits.
Dans chaque centre-ville,
protégés.
On voit la même chose.
Non, c'est pas vrai. Dans des endroits protégés.
C'est un fléau.
Et pour moi, ce que tu fais, c'est un délit de cette
gueule. Mais dire que ça mène la jeunesse, mais c'est dramatique.
Ce qu'on fait là, c'est qu'on leur fait une pub.
Mais c'est vrai que ça le fait, mais dans des conditions abominables.
De malade.
Enfin. Pourquoi? Parce que KFC et McDo, ça élève les cœurs, ça élève les mœurs, ça élève l'appétit.
Et tes enfants n'en jouent.
Mais jamais là-dedans.
Ah ouais, d'accord. Donc tes enfants, ils vont au cinéma avec leurs copains, ils mangent jamais McDo.
Mais jamais.
Ah d'accord. J'y crois pas. Ils mangent dans une brasserie. Ils ont 15 ans, ils mangent dans une brasserie.
Mais ils mangent ce qu'ils veulent, pas cher et bien, et ils font en sorte de manger quelque chose de pas cher.
Parce que maintenant, on mange pas cher et bien, moi.
Mais bien sûr qu'on mange pas cher et bien quand on prend le temps, quand on a un peu de connaissances alimentaires, qu'on s'intéresse à ça.
Mais pas des
gamins. Qu'on aime ses enfants.
Mais pas des mots.
Quand on aime ses enfants, on les laisse pas aller au McDo et au KFC.
Ah d'accord. Alors j'aime pas mes enfants.
Ben non,
moi aussi, je déteste les miens.
Je déteste
les miens. Alors, vas-y, Jérôme Lavrie.
Pour moi, le débat, il est pas du tout là. Le maire, partir du principe de la malbouffe, moi, il y a un autre sujet qui m'intéresse. C'est qu'ils existent, les KFC, les McDo, etc. Le pire pour les villes moyennes, c'est quand tout ça ne s'installe qu'en périphérie, dans les zones commerciales, avec les boîtes à chaussures blanches qui se ressemblent toutes avec les parkings. Et le pire qui arrive à des villes moyennes, c'est que leur centre-ville, c'est pas de choisir tel ou tel commerce, c'est qu'il se désertifie. Et qu'à la place de là où ce KFC va s'installer, on est une dent creuse. Parce que quand on a un commerce qui est vide, quelle que soit l'enseigne qu'on aurait pu mettre dedans,
la franchise.
Et ben celui d'à côté, il ferme. Et le commerçant qui rêve, parce qu'il serait le seul magasin à vendre des chaussures dans le centre-ville de Limoges, il ferait fortune. Non, il serait dans la misère immédiatement. Parce que ce qui compte, c'est la variété des magasins.
Jérôme,
C'est la variété du choix. Et comme ce KFC, il existe, moi, je préfère, si je suis maire de Limoges, qu'à Dieu ne plaise, je préférerais qu'ils viennent s'installer en centre-ville que de s'installer en périphérie. Parce que si les gens y viennent pour bouffer, les gamins, ils vont peut-être venir pour bouffer de la merde, comme tu dis. Ça ne rappelle un de tes illustres prédécesseurs, c'est de la merde. Et ils vont peut-être venir bouffer ça, mais peut-être qu'à côté, ils vont aller consommer autre chose, ils vont aller faire d'autres courses, ils iront à la librairie qui est à côté.
La grande distribution a tué les centres-villes, a tué le commerce.
Mais c'est ce qu'il te dit.
Et ben, on va pas aggraver.
Mais non, mais parce que si aux jeunes, que tu le veuilles ou non, ils vont aller y bouffer. Je préfère leur donner l'envie, l'habitude de continuer ou de revenir fréquenter un centre-ville.
Ah, merci.
Parce que ce sont les commerçants, ce sont les clients de demain. Et si on leur donne l'habitude de n'aller que sur Internet ou que dans des périphéries de ville, ils ne viendront plus jamais.
C'est pas un commerce de proximité, Jérôme, c'est une chaîne internationale.
Mais c'est de la connerie en centre-ville. Un commerce de proximité, c'est pour le type qui habite là et qui fait ses courses au rez-de-chaussée. C'est pour celui qui dit je veux que du commerce de proximité en ville.
Demande au maire.
C'est le type qui veut juste que rester entre eux.
Demande aux maires qui ont des
fast-food
dans le centre-ville. Ça attire quoi comme faune?
Mais tu dis n'importe quoi.
C'est la mixité sociale. Mais de quoi tu parles? On parle de mixité sociale.
Il faut qu'il y ait des commerces. Et maintenant, il y a tellement de rues qu'on a refait à coup de millions et qui sont vides, complètement vides. Et il vaut mieux attirer avec des enseignes qui vont ramener du monde. Et après, ça réaugmentera en qualitatif. Moi, j'ai été dire cap dans des collectivités. On s'est battu pendant des années pour faire le lien avec le débat précédent. Le multiplex, plutôt que d'aller le foot sur un énième parking à 5 km du centre-ville, on s'est battu pour le faire en ville.
Près des grandes surfaces.
Et tu sais ce qu'on
créer des grandes surfaces toujours.
C'est ce qu'il te dit.
On s'est battu pour le faire en centre-ville.
Voilà. Donc voilà.
Et tu sais ce qu'on a fait.
Pourquoi on allait en banlieue?
Parce que ça, c'est autre chose.
Parce que le mètre carré est moins cher.
Non, c'est le même
problème. Tu sais ce qu'on a fait? Eh ben, on a même autorisé un McDo à venir juste à côté.
Oh non, vous avez pas fait ça.
Mais si. Mais une fois que le McDo est venu, eh ben, les surfaces qui étaient vides, on a une pizzeria qui est venue, on a une brasserie qui s'est installée, on a un chinois qui s'est installé. Et si on n'avait pas fait ça, si on n'amène pas des enseignes qui sont connues, et que tu le veuilles ou non, ils y vont. C'est pas avec tes petits bras musclés que tu vas les faire fermer, interdire aux gamins d'y aller. C'est, ou tes grands bras musclés. C'est qu'il faut leur donner à nouveau l'envie de venir en ville. Parce qu'ils vont passer devant une autre maison, une autre boutique, ils vont y faire leurs courses.
Et toi, tu parles de faune. Je retrouve ça inaudible. On va pas laisser le centre-ville aux bourgeois et on va pas laisser d'autres populations aux périphéries. Donc, au contraire, moi, je trouve que ça participe. Moi, j'y vais pas au KFC, j'aime pas ça, mais ça participe de la mixité sociale.
Donc, tu parles d'un principe que pour attirer le peuple, faut lui donner de la malbouffe. Voilà.
Mais Périco, c'est
pas de la malbouffe, c'est une culture américaine, indépendamment de ça.
C'est sympa d'aller avec ses potes.
Moi, mes gamins, ils passent leur temps à faire ça, les jumeaux qui ont 16 ans.
Justifier justement le fait des amener.
Mais non.
C'est de mauvaise conscience. Mais ne nie pas que c'est la malbouffe.
Moi, j'ai pas d'enfant.
Ils mangent admirablement.
Que c'est la malbouffe. Assumez-le.
J'ai pas dit que c'est pas de la malbouffe, mais s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait rien eu. Donc, tu préfères une boutique vide? Tu préfères une boutique vide?
D'accord, avec ce genre de raisonnement, on peut aller très très loin. Un jour, on sera confronté à d'autres problèmes, on dira oui, mais il faut le laisser.
Ouais, mais avec ton genre de raisonnement, on peut aller très très loin aussi, parce que le fait de ne pas accepter, je veux dire qu'il y ait d'autres formes de nourriture. Alors oui, c'est de la malbouffe, mais je suis désolée, moi j'y vais pas tout le temps. Peut-être j'y vais une fois tous les deux mois. Et alors?
Décadence française.
C'est décadent, c'est régressif.
Vous connaissez tous l'organisation Slow Food. Elle a surgi quand un McDo s'est installé dans le centre de Rome. Il y a des Italiens qui ont dit on peut pas accepter ça dans cette capitale de la civilisation, un McDo. Et le mouvement Slow Food a surgi, qui enseigne la bonne bouffe, voilà, la préservation. En France, rien. Okay. On est le pays où il y a plus de grandes surfaces.
Et où ces firmes se
développent.
C'est pas vrai. Tu vas dans Montpellier avec les halles qui sont en train de refaire complètement.
Heureusement.
T'as des dizaines d'enseignes de fast-food modernes qui viennent et qui te vendent des trucs de qualité.
Mais heureusement qu'on se bat, mais c'est pas grâce à eux, c'est par réaction à eux qu'on fait ça.
Mais cher nostalgique,
la résistance.
Cher nostalgique, il faut redonner l'envie aux gens de revenir, le motif de revenir en ville. Quand j'étais gamin, quand j'avais 15 ans, 16 ans, jamais j'aurais franchi la porte d'une brasserie pour aller bouffer, quel qu'en soit le prix.
Cher.
Mais rien que d'aller au McDo, pour moi, j'ai adoré ça. Ça m'empêche pas d'habiter dans le Périgord, et quand je peux manger du foie gras et trouver un peu de champignons, si il se met enfin à pleuvoir, je serais content de les manger.
Allez, on est avec Olivier qui nous appelle de Limoges, justement, bonjour. Et qui est infirmier. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Estelle.
Alors,
bonjour.
Dites-nous. Alors tiens, parce que là vous voyez que c'est un peu chaud sur le plateau. Enfin, on est tous contre Périco. Ouais. Est-ce que vous êtes pro-Périco ou anti-Périco?
Ah, je suis anti-Périco pour une fois.
Moi aussi. Ouais,
complètement. Parce que je trouve pas que ça va dénaturiser le centre-ville.
Bien d'accord.
Franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y a un Quick dans le centre-ville. Il faut une demi-heure de file d'attente pour pouvoir manger. Donc quand j'y vais avec mes enfants, soit on mange un kebab, soit on va à les Michelin, soit on va chez Paul. Enfin, je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est pas le KFC pour moi qui va. Au contraire, il y a plein de collèges.
Et vous préférez un KFC plutôt qu'une grande surface fermée pendant des années?
Comment?
Vous préférez un KFC dans Limoges plutôt qu'une grande surface fermée pendant des années?
Vous savez, dans Limoges, les commerces qui ferment, il y en a mais tout le temps. Quoi. Alors, ça peut donner un peu de dynamique. Moi, je trouve que.
On est bien d'accord.
Voilà. Pour moi, ça ne me choque pas du tout. Il y a tellement de malbouffe dans Limoges. Je me dis, une enseigne comme ça, les gens n'y vont pas tous les jours. Ils y vont pour faire plaisir avec leurs enfants. Pourquoi pas? Voilà.
Ça ramènera des jeunes en centre-ville, parce que Limoges, on va pas se mentir, c'est pas une ville hyper jeune, quoi.
Alors, c'est une ville universitaire, quand même.
Il y a des jeunes, mais je trouve, en fait, tout est en périphérie. Moi, je vous donne l'exemple. Il y a 5 ou 6 McDo en périphérie. Il y a,
d'ailleurs, le promoteur. Le promoteur là qui veut installer un KFC en centre-ville de Limoges possède déjà un KFC en périphérie.
Il y a déjà un KFC en périphérie, mais bon, on va pouvoir y aller. Après, en centre-ville, c'est vrai que, moi, s'il y avait un KFC en centre-ville, je vous avoue que j'irais peut-être une fois tous les deux mois avec mes enfants pour leur faire plaisir. Et moi, ça me choque pas. Moi, au contraire, je suis pour. Voilà.
Bravo, Olivier.
Merci beaucoup, Olivier.
Et puis, c'est vrai que, je vais vous expliquer, j'habite à 30 km de Saint-Thierry.
D'accord.
Donc, il y a un McDo qui s'est ouvert. C'est tout un pataquès. Voilà. Donc, et en fin de compte, le McDo est implanté, il fonctionne. Ça n'empêche pas les restaurants à côté de fonctionner, les boutiques de fonctionner. Il y en a pour tous les goûts.
Et ça crée des emplois.
Ça crée des emplois.
Notamment étudiants.
Ça en détruit.
Voilà.
Non, enfin, moi, non. Non, ça crée des emplois étudiants. Non, et non. Franchement, mais voilà. Si.
Des emplois
si.
Précaires épouvantables et ça détruit.
C'est pas épouvantable. Moi, j'ai bossé au McDo, c'est pas du tout épouvantable. Mais
c'est tout. Les conditions sociales, c'est épouvantable.
À McDo, mais pas du tout. Il y a des carrières qui sont à l'américaine.
Vous voyez ce qui me fait mal, c'est pas l'installation de McDo et KFC. C'est les gens qui défendent, qui tiennent ce genre de raisonnement. Ça me perturbe terriblement. Je crois qu'on est un pays très malade.
Je suis désolé de vous perturber.
On est un pays, oui, bien sûr, on est un pays très malade. Voilà, parce que vous êtes des gens sensés quand même.
Oui. Voilà. On est un pays très malade parce que
c'est pas mal,
parce que KFC et McDo vont en centre-ville.
Ah oui. Ah. Non. Mais... L'argument que vous donnez.
Tu vas m'expliquer.
La jeunesse,
tu vas m'expliquer.
Mais alors,
tu vas
en train de tuer les centres-villes.
Pourquoi dans leur restauration classique, ils ont autant de mal à recruter des chefs de rang, des chefs de parti. Pourquoi ils ont, si c'est le paradis sur terre, parce qu'ils font de la bonne bouffe, avec du bon patrimoine, pourquoi ils n'arrivent pas à recruter chez les jeunes? Pourquoi ils veulent pas y aller?
J'ai jamais dit.
Et quand tu peux pas manger en brasserie à moins de 25 €,
l'argument, je peux te le retourner.
Non. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments dans le fait que c'est peut-être des boulots que les gens veulent plus faire non plus.
Bah, on est bien d'accord.
On peut les tendre à d'autres activités.
On est bien d'accord. Voilà. Mais moi, je connais
mais là,
plein
les
de
conditions
jeunes,
sociales.
La seule main qu'on leur a tendue, c'est d'aller trouver un boulot au McDo. Là, ils n'y sont pas restés pendant 40 ans.
Non.
Ils sont restés pendant 3 mois, pendant 6 mois. Non. Ça les a bien aidés, notamment pour financer leurs études.
Exactement.
Parce que personne d'autre, dans les brasseries, personne n'en voulait. Hein.
On est avec Mario qui nous appelle de Nîmes. Bonjour Mario.
Eh bien, bonjour à tout le monde.
Oh, bonjour Mario. Petit accent. Ça va Mario?
Ah, moi, très bien. Et franchement, je vais vous dire un truc qui va vous étonner. Et pour une fois que je vous ai au téléphone depuis longtemps, que je suis avec monsieur Péricot et que ce monsieur, je suis chaque fois contre lui, pour une fois, j'ai l'impression de revenir dans ma jeunesse quand j'entendais Jean-Pierre Coff. Parce qu'à l'époque, j'habitais à Nantes.
C'est de la merde.
Il n'a jamais dit.
Voilà, c'est ça. Et j'habitais un petit village de Nantes, dans la sud-est de l'Aveyron.
D'accord.
N-A-N-T. Et on avait un voisin qui était en dessus, à côté d'un village troglodyte, qui s'appelait José Bové.
Ah oui.
Qui était un peu la Sandrine Rousseau de maintenant.
C'est
pas gentil pour lui, mais bon.
Parce que soi-disant, il brassait du vin. Mais je vous conseille aussi de relire en même temps ce qu'il disait à l'époque José Bové, de relire le rapport Médov. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. De
non.
Bien sûr, bravo.
Non mais vous pensez quoi, Mario?
Je vais vous raconter un truc, c'est qu'à l'époque, j'ai participé, j'avais 12-13 ans. En 99, j'ai participé au cassage de McDo.
Au démantèlement du McDo et Millau.
Attendez, je vais vous dire un truc. C'est que là, je suis contre la violence, parce que déjà d'une, j'ai fait des TIG,
bien sûr.
Ça, j'ai eu un casier, ouais. Et la violence ne sert à rien. Et là, par contre, voilà, je vais rebondir sur ce que M. Périgaud a dit, c'est que les centres-villes, dans le centre-ville, tous les artisans, les commerçants qui ont un diplôme, un CAP, qui sont prouvés cuisseaux, pâtissiers, que n'importe boucher, n'importe quel artisan, paye ses charges plus chères qu'un McDo, un kebab ou qui se déclare bazar ou n'importe quoi, qui a des taxes deux fois moins chères qu'un artisan. Donc le centre-ville doit être, vu qu'il est plus cher, doit avoir une meilleure qualité pour les gens, de n'importe qui, parce qu'on peut manger dans un bon restaurant, aller à Millau ou à Bagnols-sur-Cèze, vous avez des bons restaurants, pour 10-13 euros, vous mangez un plat du jour, vous vous régalez de plat, dessert, entrée. Donc,
entrée, plat, dessert à 13 euros?
Oui,
Mario.
On n'est pas à Paris, messieurs dames. Ouais,
j'entends.
Non, mais un collégien, il va pas y aller.
C'est pas son truc. C'est
vous
pas
avez des enfants, Mario? C'est pas marrant.
Attendez. Vous allez rue de la République, à Bagnols-sur-Cèze, à côté, en face de la mairie, il y a une sandwicherie qui fait des sandwichs maison. Ils sont à 6,50 € avec la boisson.
Alors, c'est très bien.
Parce que l'alternative pour vous, c'est McDo, pour les jeunes.
Non, moi, c'est ce qu'ils veulent.
C'est pas ce qu'on a dit.
Au KFC.
Moi, le pire pour moi, si je suis maire d'une ville moyenne, c'est d'avoir un centre-ville qui se vide. Ça, c'est le pire. C'est la fin des haricots. Et ça ne veut dire qu'il y aura que les grandes marques qui pourront gagner du fric en périphérie.
Mais c'est déjà le cas. Il y a tout est franchisé dans les centres-villes.
À quoi ressemblent les Champs-Élysées? Il n'y a plus rien sur les Champs-Élysées. Mais oui, et t'as quoi? T'as que des grandes marques et que des
franchises et les grands centres-villes aussi.
Et que des fast-food. Là, c'est pas ça. À Limoges, c'est juste que voilà, t'auras un fast-food. Enfin, il y a Otaku et Quick, mais t'auras un fast-food. T'auras un KFC. Oui, mais c'est ce que t'as dit, Jérôme. À côté, t'as peut-être une librairie. Et cette librairie, mais quoi?
Vous pensez que la clientèle du KFC va aller
Mais attends, mais est-ce que tu penses que c'est quoi la clientèle du KFC?
Exactement.
Moi, je suis désolée. T'as aussi des adultes. Je veux dire, encore une fois, qui vont manger au McDo et qui emmènent leurs enfants et qui après peuvent les emmener à la librairie ou au cinéma. C'est pas que des pauvres qui mangent dans les fast-foods.
C'est d'ailleurs pour ça que les chaînes Cultura et autres se sont installées pas loin des McDo en périphérie.
Donc exactement, c'est comme la librairie. Au départ, tes gamins, ils vont au rayon manga, ils vont au rayon BD, puis un jour, ils monteront au rayon littérature. Enfin, ça marche par attraction comme ça.
Bah, c'est une lecture bisounours de la société, mais pourquoi pas.
Alors, je voudrais qu'on prenne Mohamed. Mohamed qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Alors Mohamed, est-ce qu'il faut sanctuariser nos centres-villes en France?
Déjà, ils sont sanctuarisés parce que normalement, il n'y a pas local d'urbanisme, et il y a sûrement le centre-ville de, comment il s'appelle, de Limoges va être classé. Donc, à mon avis, KFC doit répondre à tous les critères. Bon, ça, c'est pour l'aspect urbanistique des choses. Autre chose, moi, ce qui m'emmerde dans cette histoire, excusez-moi, mais c'est qu'on se dit que la malbouffe, c'est pour les pauvres, et pour les riches bobos du centre-ville, eux, faut pas de malbouffe, il faut pas ceci, faut pas cela. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est pas tellement le KFC et sa malbouffe qui dérange. C'est l'arrivée d'une population périurbaine qui rentrerait dans le centre-ville. C'est ça, à mon avis, qui est plutôt ennuyeux. Autre chose, je vais répondre à M. Perico, les gars, je suis tout à fait d'accord avec lui sur la malbouffe qu'il faut lutter contre. Ouais. Mais si vous mettez à 10 euros la bouteille de coca, à 30 euros le menu malbouffe, personne n'y va. Voilà. Si on considère que cette bouffe, elle est nuisible, ben on agit comme la cigarette, ben on augmente les prix.
On taxe.
Voilà, c'est des acides gras saturés,
c'est pas le but de ces industries. Hein.
Mais il a raison.
C'est pas du tout ce que recherchent ces firmes-là, donc je vous rassure, ça n'arrivera pas. Et personne ne le demande.
L'État peut taxer. L'État, effectivement, ils ont déjà taxé les boissons sucrées, etc. Voilà, mais... Ils peuvent taxer les fast-food. Personne ne leur interdit, Perico.
On taxe rien du tout. Et la pâte à noisettes sur laquelle on se jette, quand on a voulu la taxer.
Parce que tu manges pas de Nutella non plus, toi.
Et la pâte à noisettes sur laquelle les gens se jettent, elle est fabriquée en Normandie.
Quelle horreur. C'est-à-dire que pour vous, tous ces aliments-là.
Elle donne du boulot à des centaines de personnes.
D'accord. Donc pour vous, tous ces aliments-là sont entrés dans les mœurs. Ils font partie de notre paysage alimentaire. C'est très bien.
J'ai pas dit que c'était très bien, mais ils font partie de notre paysage alimentaire.
Je vous annonce qu'on est très mal et qu'on le paiera.
Mais non, et ça n'empêche pas le reste.
Alimentaire, sanitaire, tout ce que vous voulez.
Mais je peux vous dire que vos gamins, ils vont aussi manger du Nutella, Perico, et ils vont aussi manger McDo.
Non, certainement
mais si
pas.
Ça arrivera, Perico.
Et ils vous expliqueront pourquoi ils ne le font pas. Pas moi, eux vous expliqueront à 15, 11 et 9 pourquoi ils ne le font pas. Ils vous expliqueront ça sereinement, tranquillement, gentiment. Voilà. Oui. Et ils mangent pour moins cher et mieux parce qu'ils ont compris que la variance alimentée pouvait même à ça. Mais si on part perdant et qu'on considère que ces jeunes ne peuvent pas s'en sortir, qu'il faut donc leur donner la malbouffe systématiquement, eh ben c'est une démission que l'on paiera très cher. Je constate que ces firmes ont gagné. Le simple fait que vous teniez ce raisonnement, fait qu'elles ont gagné, elles sont effectivement très fortes.
Donc
on va devenir une succursale de l'Amérique, à tous les points de vue. Non seulement ça, mais sur le plan culturel, mais surtout.
Non, voilà.
Donc on s'américanise. Les Italiens ont résisté.
D'accord. Alors pourquoi il y a des burgers dans toutes les grandes brasseries, en fait? Ça vous gêne pas, ça?
Alors voilà un bon burger. Moi, je défends
le
burger.
Ah bon, vous
trouvez? Moi, je défends. Et tous les grands cuisiniers aujourd'hui ont un hamburger à la carte, avec de la viande française, du pain français, évidemment.
À combien le burger?
Mais. Attendez, est-ce que le poison doit être gratuit? Alors, une voiture sans frein, elle n'est pas chère, elle n'a pas de frein, votre voiture. Oui, mais elle n'est pas chère. Les pauvres, ils ont bien le droit de conduire. Mais il n'y a pas de frein sur la voiture, elle peut rentrer. Mais c'est pas grave.
Si c'est viande française, faut aller chez
moi. Mais la haine du peuple que vous manifestez, ils ont le droit de bouffer ça.
Non, c'est
parce que c'est des gens pauvres, ils ont le droit de bouffer de la merde.
Non, fabuleux. Parce qu'en fait, là, tu te trompes, c'est pas les pauvres qui vont au McDo. C'est là où ça va pas chez toi.
Mais pas que les pauvres, évidemment. Et même les gens très riches vont au McDo parce que c'est à la mode, c'est américain.
C'est pas parce que c'est la mode.
Gens qui vont parce qu'ils peuvent pas se payer autre chose. Il y a des gens qui vont, mais qui me l'ont dit. On ne peut pas se payer autre chose. On a un repas complet pour 5 ou 6 euros.
C'est plus cher que ça maintenant.
Et il y a des gens, quand ça a été à ce prix-là, ils vous disent pour
ça. Il n'y a pas de
doute. Et qui vont tous les jours. Et qui vont quelquefois.
Personne ne va tous les jours au McDo.
Mais heureusement, évidemment qu'il y a des gens qui vont tous les jours.
Mais n'importe où.
Ça se voit que vous êtes pas au courant.
Ce que tu dis, ça existe. Il y a des gens qui mangent énormément au McDo ou au Quick parce que c'est moins cher qu'ailleurs et que ça te fait un repas, etc.
Les gamins surtout.
Mais je trouve.
Les
parents aussi. Mais on n'est pas en train de dire qu'on est pour la malbouffe. Je trouve ça un peu caricatural la manière dont tu considères notre opinion. On n'est pas en train de dire qu'on est pour la malbouffe. Et moi, j'ai pas pu remettre les pieds dans un McDo ou un Quick depuis que je suis rentrée des États-Unis. J'avais 19 ans. J'ai pas réussi. C'est trop, too much. Mais je comprends que économiquement, ce soit viable. Je comprends autant s'en servir puisqu'ils existent. En fait, c'est ça. Le mal est là. Alors autant s'en servir. Et un jour, on y reviendra tout
Merci
ça. Un jour, on s'en passera.
C'est tout ce que je voulais te faire dire.
Un jour, on en passe.
Le mal est là. Autant s'en servir.
Un jour, on s'en passera de la malbouffe. On n'y arrive pas, mais c'est pas aujourd'hui.
Alors, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il sanctuariser nos centres-villes, Rémi?
Mais c'est non, non, désolé Perico, non à 56%.
Ouais. Bon, c'était kiff-kiff.
C'est pas énorme.
Allez, on va dire que c'est quasiment 50-50. Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. Faut-il davantage mettre en valeur la France du travail? C'est ce que souhaite Fabien Roussel. Est-ce qu'il faut éteindre la Tour Eiffel à minuit? Là encore, c'est un débat. Et puis, on se demandera si Olivier Giraud a bien géré la crise Covid. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h31, vous êtes sur RMC, RMC Story, canal 23, avec Rémi Barre et Perry Collégas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Et c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commencer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Faut-il davantage mettre en valeur la France du travail ? C'est l'appel en tout cas lancé vendredi à la fête de l'UMA par Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Il souhaite que la gauche défende le travail et non pas les allocations sociales. Des propos qui suscitent depuis de vives réactions et qui exaspèrent le cheminot Bruno Poncet.
Là, on pourrait entendre qu'à un moment donné, il explique juste, il commencerait sa phrase en disant « Il faut réindustrialiser la France, il faut redonner du travail à tout le monde, il faut que tout le monde ait l'envie de travailler. » C'est pas ça, sa phrase à lui, c'est sa phrase à lui, et dans un contexte politique actuel, c'est d'aller chasser sur les terres du Front National, qui dit la même chose depuis des années. Or, aujourd'hui, moi qui parle régulièrement à des gens qui sont pas les mieux nantis de France, et malheureusement pour eux, je peux vous garantir qu'il n'y a personne qui se complaît dans le fait d'être au chômage, dans le fait de toucher le RSA, dans le fait de ne pas avoir de travail. Mais si, il pense qu'il y a une gauche comme ça. Mais non, mais moi je trouve que Roussel, à un moment donné, moi je suis petit-fils de communiste et mon grand-père était résistant, moi j'ai honte que le parti communiste actuel, et quand bien même j'ai pas leurs idées, en tout cas pas surtout, soit dirigé par cette personne-là. Je trouve ça honteux parce qu'à un moment donné, il est en train de dire des trucs. Même.
Il enfonce des portes ouvertes.
Mais oui, bien sûr, il enfonce des portes ouvertes. Sauf que ces portes ouvertes à lui, elles ont déjà été enfoncées par d'autres personnes avant qui ont ces idées opposées aux siennes. Non, mais c'est très sale ce qu'il fait là. Roussel.
Perry Collégas, est-ce que finalement Fabien Roussel est de droite ?
Écoutez, plus ça va, plus cet homme est en train de prendre des dimensions politiques absolument magistrales. Je veux dire, il aurait été secrétaire général du Parti communiste français depuis longtemps. Le Parti communiste serait peut-être encore le premier parti de gauche et la gauche serait peut-être au pouvoir. En tout cas, ce qui est dit est, comme on dit, simplement frappé au coin du bon sens.
C'est ça.
Oui, la valeur travail. Alors, le paradoxe, c'est que là, on parlait des 35 heures tout à l'heure. Quand on dit aux travailleurs, vous allez travailler moins parce que finalement, le travail, c'est pas bien, c'est un peu sale, vous êtes mal payé. Il faut d'abord réhabiliter le travail. Et le Parti des travailleurs, qui était le Parti communiste, était le parti qui disait, on s'émancipe par le travail, la qualité du travail, par la vocation, par les compétences, par le courage, par l'énergie. Tout le contraire du dialogue social assistanal auquel on assiste. Comme vous êtes pauvre, vous gagnez peu, et ce qu'avait, c'est-à-dire l'anti-gauche, c'était quand Hamon, le candidat de la gauche, avait dit, c'était le RSU. Vous allez vivre sans vous ayez. Au contraire, l'émancipation de l'être humain passe. Alors, le mot travail est violent, c'est très pallium. Voilà, œuvrons. C'est le fait d'ouvrir, d'agir, c'est ça. Et Fabien Roussel est dans son rôle absolu de secrétaire national du Parti communiste français, et il est aujourd'hui le dernier homme de gauche, bien plus que les gens des écolos, à défendre les valeurs de gauche. Je dis pas prolétarienne, parce que le prolétariat
c'est la gauche qui vous plaît, quoi.
Mais c'est la gauche vraie. Et c'est la gauche qui parle au peuple. Et bien entendu que c'est en ayant abandonné ce discours, ce discours que l'on a fait en sorte que la classe ouvrière vote aujourd'hui majoritairement pour Le Pen et le Rassemblement National. Ça, c'est un enseignement.
Jérôme Lavrieux, est-ce que finalement il y a trop d'allocations en France ?
J'en sais rien, parce que les allocations, en fait, elles sont censées correspondre à un besoin pour quelqu'un. On veut toujours les supprimer de manière générale, mais si on les a instaurées,
on peut les repenser.
Lutter contre les abus, les repenser, ça doit être un travail perpétuel. Mais là, on a une vraie ligne de fracture à gauche. Vous avez, en fait, il revient aux fondamentaux de ce qu'était son parti. Je mets de côté l'allégeance à l'Union soviétique, toutes ces conneries. Je suis pas un marxiste. Hein. J'ai pas fait 68.
On n'est pas inquiet.
Je suis né en 69.
Pas posé la question.
Mais
vous
tu as raison de le dire, Perico. Normalement, pour les communistes et pour plein d'autres mondes et les gaullistes, le travail c'est une source d'émancipation. Donc lui, pourquoi les gens lui tombent, enfin ses camarades, enfin ses concurrents, parce que tout ça c'est des histoires de concurrence entre eux, lui tombent sur le dos. Il a dit quoi ? Il n'a pas dit une énormité. Il a dit « Je rêve d'un monde où les prestations sociales, les allocations, etc. ne seront plus nécessaires parce que tout le monde pourra travailler. » Enfin, qui peut être contre ça, sauf la personne qui, tel Hamon, nous dit « Mais non, braves gens, ne travaillez pas, ne faites pas d'études, ne vous levez pas le matin, ne vous couchez pas le soir, faites ce que vous voulez, l'État, dans son omniscience, son omnipotence, va assurer tous vos besoins. »
C'est tout à fait ce qu'il dit, hein.
Le revenu universel de base, c'est ça que ça veut dire, c'est sans condition. c'est sans condition de durée et de nécessité. Donc moi, il dit quelque chose qui est censé.
Il dit plus de médicaments, essayons d'être en bonne santé, voilà. Évitons l'hôpital.
Je préfère lutter pour tout le monde et du travail que de lutter pour tout le monde et une assistance.
Okay. Fabien Roussel, c'est le mec de gauche qui plaît à droite.
Exactement. Oui.
Conclusion du débat.
Qui plaît même peut-être plus à droite qu'à gauche.
C'est sûr.
Les GG ce matin. Faut-il éteindre la Tour Eiffel à minuit, l'emblème de la France, connu dans le monde entier et visité chaque année par des millions de personnes, va désormais être éteint dès minuit pour faire des économies d'énergie. Minuit, c'est une heure plus tôt. Écoutez.
Je crains qu'on fasse avec l'écologie ce que nous avons fait avec le Covid. On va faire des trucs qui ne servent à rien, qui ne représentent des économies d'énergie que très résiduelles.
Exactement.
Et qui vont simplement nous faire une vie quotidienne plus triste, mais qui ne vont avoir aucun impact sur l'environnement. Et moi, je suis absolument certain que éteindre la Tour Eiffel une heure avant, éteindre des vitrines de magasins, interdire les vidéos, enfin les publicités vidéo ou rétroéclairées, etc. dans les transports en commun, tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire un environnement plus tristoun, et ça ne va rien changer sur le plan écologique.
Alors oui, ça va changer. Voilà, Charles Consigny, l'avocat des GG. Éteindre la Tour Eiffel à minuit, c'est bien ou c'est pas bien, Emmanuel Dancourt?
Bon, tant pis, je vais tous vous avoir contre moi, mais j'assume. Oui, c'est bien, évidemment que c'est bien. On a déjà eu un débat la semaine dernière. On a déjà eu un débat la semaine dernière sur éteindre les vitrines dans les rues. Je crois que les gens n'ont pas compris la dimension de ce qui nous arrivait dessus. Il n'y a pas de petite. Charles disait, ça va être tout petit, ça va être résiduel. Mais c'est déjà ça. Et en plus, c'est un symbole qu'on éteint. Moi, j'adore la Tour Eiffel. Quand j'arrive sur Paris le soir et je la vois, et qu'en plus des fois elle clignote, j'adore ça, mais on n'en est plus là, et tant pis si c'est un petit peu plus tristoun à partir de minuit. De toute façon, à minuit, il faut dormir.
C'est
à minuit,
la ville lumière la plus visitée au monde, et on va éteindre la Tour Eiffel
juste à minuit. À minuit, la plupart des touristes, ils sont piétés à minuit. Alors, enfin, ils sont
dedans. En quoi ça, non mais on
là, parce
on
parle d'une heure phosphorescente, et comme ça c'est pas rien.
C'est vraiment un symbole.
Qu'est-ce que ça change qu'on l'éteigne à minuit ou à une heure? Qu'est-ce que ça change?
Eh ben moi j'aime l'idée de pouvoir voir la Tour Eiffel.
Laisse-la toute la nuit.
Parce que c'est le symbole de Paris.
Laisse-la toute la nuit.
L'ancien que je suis va vous rappeler qu'en 74, après le premier choc pétrolier de la guerre du Kippour, il y a eu des restrictions. Je crois, on me corrigera, que c'était 23 ou 22 heures les monuments.
Et il n'y avait pas de LED.
Ça a duré un an, je crois, ou deux ans. Paris n'a jamais autant regorgé de touristes. Et je peux vous dire qu'en 74, ma chère Estelle Denis, la vie nocturne avec la Tour Eiffel fermée à 22 ou 20 ou 23 heures, elle est éteinte. La vie nocturne parisienne regorgée de bonheur, de plaisir, d'épanouissement.
Et ben, c'est plus le cas.
Mais c'est pas à cause de la Tour Eiffel, c'est parce que les gens sont tristes. Ce qu'il faut éteindre.
Et ben, justement, laissons-leur du bonheur.
Ce qu'il faut, c'est vous qu'il faut pas vous éteindre. Éteindre la Tour Eiffel, c'est pas grave. Vous.
Mais moi, je m'en fous, je dors à 23 heures. Mais là n'est pas
alors, qu'est-ce que vous venez?
Et alors, c'est pas pour moi, personnellement.
C'est pas parce que la Tour Eiffel est allumée que les gens
Paris
sont joyeux.
Ou quoi, du tourisme.
De la lumière intérieure que l'on a quand on vit à Paris.
Mais
et non pas des lumières artificielles. Mais vous savez ce que ça consomme comme énergie?
Mais on n'a qu'à tout éteindre, en fait.
Vous préférez pas donner.
Vivons à la bougie.
Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour donner l'argent de cette heure supplémentaire d'éclairage qui coûte cher à des gens qui en ont besoin pour vivre?
Je très bien. On va.
Non, mais d'accord. Mais c'est tellement démago ce que vous dites.
Je sais pas, mais
c'est démago.
C'est une énergie. Est-ce que c'est une économie d'énergie?
Rien.
C'est juste symbolique.
C'est zéro.
Pourtant, c'est juste symbolique.
Non.
C'est juste pour faire ça.
Plus ça.
Enfin, non, la totalité de l'éclairage public de la Tour Eiffel.
Oui, festif. Non, de tous les monuments de Paris.
Non, je parle de la Tour Eiffel, la totalité de l'éclairage.
Sur un an. Ça fait combien?
Sur un an, sur une journée, en proportion, c'est exactement la même chose.
Oui.
C'est 4% de la consommation d'énergie de la Tour Eiffel. D'accord, c'est 4% de la consommation d'énergie de la Tour Eiffel. C'est-à-dire que les ascenseurs, et là tu vas l'avoir arrivé, c'est-à-dire que les ascenseurs qui mènent au restaurant étoilé.
Je monte à pied.
Mais bien sûr, ça se voit.
Je l'ai fait.
Oh non, alors là, Jérôme, non.
On n'avait dit pas le physique. Alors. Qui mène à l'ascenseur étoilé consomme plus que l'éclairage festif.
Ça se voit parce qu'arrivé en rouge,
d'accord, voilà. Parce qu'ils ferment à 23h30.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Là où je trouve que c'est vraiment très con, minuit peut-être, mais c'est que la proposition de l'adjoint ou je sais pas quoi qui s'occupe de ça à la mairie,
je sais que je les aime pas.
23h45, lui. Ouais. Je dis, mais non, faisons minuit avec le dernier clignotement à minuit pendant une courte période pour montrer symboliquement, etc.
Oui,
mais il y a plein de choses qu'on peut supprimer.
Donc on touche à rien, ce qui sert à rien.
On peut supprimer l'éclairage de la Tour Eiffel. On peut supprimer le feu d'artifice sur la Tour Eiffel le 14 juillet aussi. Oui. Ça sert à rien.
C'est tous les éclairages. je demande mon public ensemble, vivra, pas que la Tour Eiffel.
On peut vivre sans.
Et dans toute la France.
On se dira, mais mon Dieu, quelle tristesse.
Et voilà.
Mais mon Dieu, quelle tristesse.
Ah, ça vous suffit pour être triste.
Oui, 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 bah parce que là, ça commence par ça. Et puis après, tu vas voir. Il n'y aura plus d'éclairage, il n'y aura plus rien.
Les âmes sensibles.
Déjà qu'on n'a plus le droit d'aller au McDo, on ne pourra même plus regarder la Tour Eiffel.
Tu verras, la France rejaillir.
Non, mais en plus, moi, ce qui me gêne, c'est que je trouve ça extrêmement démago.
C'est un symbole.
Bah oui.
Mais la Tour Eiffel,
en fait, aujourd'hui, on est dans l'ère du symbole, et ça me gêne.
Tous les monuments historiques français, du Mont-Saint-Michel jusqu'à Cluny, tout s'éteint à 23h ou minuit.
Super.
À la fin de l'année.
Quelle belle
je vous jure que ça fait une économie conséquente.
C'est génial.
Je ne peux pas dire le contraire. Je ne sais pas si c'est bien.
Mais
je sais que
les restos aussi à 22h, tu vois. Et puis, éclairons plus les devantures. Et puis, encore une fois. Et puis je ne sais pas, chauffons.
Alors,
non, mais ce n'est pas possible.
Mais
si, c'est possible.
Mais chérie, quand on ne pourra plus du tout l'allumer, du tout, on se souviendra que vous aviez dit. Ah voilà. Parce qu'un jour, ça finira qu'il n'y aura plus
assez. On ne pourra plus l'allumer parce qu'il y aura trop de voitures
électriques. Il y en a qui dira qu'il faut fermer la télé parce que ce n'est pas utile.
Les discours comme toi n'ont toujours pas compris ce qui se passe. Je suis désolée.
C'est la démagogie.
Il a raison, c'est la Tour Eiffel, c'est le Mont-Saint-Michel, c'est l'Arc de Triomphe, c'est tous les monuments du monde. Et au bout d'un moment, eh ben les 4% dont tu parlais, ça fait beaucoup, beaucoup de pourcentage. Et ça devient important pour la planète.
C'est les petits ruisseaux qui font les grands
fleuves. Il faut se réveiller quand même.
Les Français.
Mais tu veux te réveiller sans être démago.
Mais tu t'en fous, tu dors de toute façon.
C'est
tu dors
moi.
À minuit.
C'est pas pour moi. C'est parce que Paris est la première ville touristique du monde.
Et alors, ça n'empêche pas, il t'a expliqué, Perico, ça n'empêche pas d'être touristique. Les touristes, ils viennent quand même et ils sont d'accord.
On verra.
Ils ont l'impression de participer à quelque chose.
Punir les gens, les Français font
mais
des efforts.
Punitive,
les Français
ils
font des efforts tous les jours. Un Français consomme rejette en CO2 la même chose que son homologue de 1914. Donc ça fait 20 ans qu'on fait des efforts monstrueux. La seule chose c'est qu'on est plus nombreux. On est un peu, on est la deuxième ou troisième économie du monde, l'Union européenne, et on consomme moins ensemble qu'on consommait en 1914. On fait des efforts monstrueux tout le temps. Arrêtons de dire parce qu'on
Mais c'est la Tour Eiffel, on ne fait pas d'efforts. Ils vont la démonter. Un jour, il y aura des fous qui diront on va la démonter parce qu'elle coûte trop cher. Ah. On n'aura plus la Tour Eiffel.
Mais non, mais avec vos symboles démagos, vous allez voir.
Initialement.
Elle était provisoire.
Avec vos symboles démagos, vous allez voir. Non, mais
Bien sûr. Il n'y aura plus d'utilité puisqu'on ne la voit pas. On peut la démonter, on ne la voit pas la nuit. On peut la démonter.
On n'aura peut-être pas 117 ans. Bon, bref. Les GG ce matin. Olivier Véran a-t-il bien géré la crise Covid? L'ancien ministre de la Santé qui a affronté l'épidémie de Covid vient de sortir un livre dans lequel il revient sur la gestion de cette crise et il a fait quelques mea culpa comme sur la gestion des masques. Écoutez.
Non, mais moi, je suis médecin hospitalier, père de deux enfants et du jour au lendemain, je me retrouve à devoir prendre des décisions, en tout cas participer à un exercice collectif de prise de décision de quelque chose de jamais connu. Donc j'ai voulu faire partager cette expérience qui, encore une fois, je commente assez peu dans le bouquin, je donne à voir aux gens, et c'est aux gens de se faire leur propre idée. Parfois on me dit, t'as été tendre avec un tel. Je dis, non, j'apporte les faits, et le lecteur, l'idée c'est qu'il se mette dans la place, et qu'il se dise, est-ce que j'aurais fait pareil, est-ce que je pense différemment, est-ce que je pense la même chose. Donc ça c'est vraiment cet exercice de transparence, et j'ai voulu le faire précisément aussi parce que je suis ministre du renouveau démocratique. Je considère qu'on est un peuple politique, deux, on n'est pas une classe politique corrompue, or les Français nous aiment pas, et de moins en moins. Donc il faut qu'on recrée du lien, il faut montrer, il faut donner à voir, ouvrir les coulisses, on n'a pas à avoir honte, ni à avoir peur de la manière dont on gère les choses. C'est un peu l'objet de ce livre.
Emmanuel Dancourt, est-ce que pour vous, Olivier Véran a bien géré la crise Covid? Parce que beaucoup lui sont tombés dessus. Quand même.
Déjà, il parle bien. Oui. Je trouve, c'est vraiment un orateur. Hein. Est-ce qu'il a bien géré la crise Covid? Moi, depuis qu'il a sorti son livre et qu'on a commencé à entendre qu'il faisait des mea culpa, j'ai essayé de me remettre dans cette époque-là que finalement on a peut-être déjà un peu oublié.
Oh non.
Et je le revois en plus, hein, quand tu nous as dit qu'il fallait pas de masque, etc. Alors que autour de moi, les soignants que je connaissais me disaient c'est faux, il faut des masques. Donc je pense qu'il y a eu cet énorme raté-là, mais que d'une manière générale, ça a été quand même plutôt bien géré. Cette décision incroyable, j'ai eu l'occasion d'interviewer Édouard Philippe il y a quelques temps. Et il racontait le moment où ils ont décidé avec Macron de prendre la décision du tout premier confinement, qui est un truc inédit, quoi. Et il dit, c'est vertigineux, on est là, on va annoncer aux Français qu'on arrête tout. Et il dit, on savait qu'il allait
faire. Ils n'ont plus le droit de sortir.
C'était vertigineux. Et c'était pourtant la décision qu'il fallait prendre. Et cette décision-là, ils l'ont su à prendre. Donc, entre oui et non, je dirais oui.
Allez, dans un instant, Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso, on va parler de ces partages d'abonnements. Enfin, on fait tout ça, mais le problème, c'est que c'est économique, mais c'est aussi très risqué. Et justement, Stéphane nous expliquera les risques qu'il y a à partager son abonnement. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, et c'est le moment de parler conso avec Stéphane Pedrazzi. C'est la Minute Conso.
RMC, Estelle Midi.
La Minute Conso.
Et Stéphane, aujourd'hui, on va parler abonnement et plus particulièrement partage. partage de code, je crois qu'on le fait tous ici, parce que les abonnements, ça coûte de plus en plus cher.
Ouais, 37 euros par mois, par famille en moyenne par mois pour les abonnements de loisirs numériques. On a en général entre 2 et 3 abonnements par foyer. Évidemment, c'est une moyenne. On sait tous que le nombre d'abonnements explose quand il y a des enfants ou même des ados à la maison. Sur la tranche 18-24 ans, on est pratiquement à une moyenne de 4 abonnements pour un budget mensuel de 43,60 €. Chez les plus de 65 ans aussi, on s'abonne. 2 abonnements en moyenne. Et évidemment, ça, vous l'avez dit, ça pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Et en fait, on n'en a pas toujours conscience en fait du poids des abonnements. 42%, c'est le décalage qu'il y a entre ce qu'on paye réellement et ce qu'on pense payer. C'est-à-dire que les Français sous-estiment le montant des abonnements mensuels Netflix, Spotify, etc.
Est-ce qu'on sait combien d'utilisateurs partagent leur code de connexion justement pour que ça nous coûte moins cher?
Alors, c'est assez fréquent. 36% des abonnés de plateformes SVOD, c'est-à-dire les plateformes de vidéo en ligne, partagent leur code de connexion à l'extérieur du foyer. C'est une nuance, je vous expliquerai pourquoi. Plus d'un abonné sur 3 et 14% partagent leur code pour les jeux en ligne, pratique évidemment assez courante, qui a donné des idées à des développeurs d'applications. Il s'appelait le Split, ShareSub, ShareIt. Aujourd'hui, il y a plein d'applications qui permettent de partager les codes et donc de diviser la facture entre plusieurs personnes. C'est-à-dire... Alors, elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon, mais en gros, on vous demande de vous inscrire, de préciser quel type d'abonnement vous souhaitez partager, combien d'utilisateurs sont autorisés pour baisser la facture. Et dans un deuxième temps, on vous demande de partager les codes de connexion pour donner à ces personnes-là qui payent la facture avec vous l'accès au compte Netflix, par exemple.
Ah, c'est comme du covoiturage, mais là, c'est du co-abonnement.
Exactement.
C'est le collectivisme.
Ah, mais moi, je ne partagerai jamais mes données avec quelqu'un que je ne connais pas.
Ah ben, c'est le risque.
Ah ben, voilà. C'est légal ou pas?
Alors, les applications nous disent que c'est complètement légal, qu'en fait, on a la possibilité, quand on a un abonnement, de partager avec d'autres personnes. D'ailleurs, c'est prévu. Chez Netflix, on peut créer plusieurs utilisateurs. On peut, pour la version haut de gamme, regarder jusqu'à 4 flux vidéo en simultané. En réalité, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'êtes pas censé partager votre abonnement en dehors du cercle familial, c'est-à-dire les parents, les enfants, éventuellement les enfants qui étudient et qui n'ont pas la même adresse pendant la semaine, mais pas avec une autre personne que vous ne connaissez pas qui habite à l'autre bout du pays. Donc j'ai posé la question à l'une de ces applications, Split. Il m'a répondu que le concept de famille, en fait, était quelque chose de plus en plus flou.
Ah oui.
Aujourd'hui, une famille, c'est plus forcément un papa, une maman et des enfants. Parfois, dans une famille recomposée, il y a des enfants qui n'ont même aucun lien de parenté. Donc le concept est flou et c'est sur ce flou juridique que s'appuient ces applications. Et d'ailleurs, vous noterez que Canal+ a rebaptisé son offre partage Friends and Family, donc preuve que la notion de famille et de groupe a évolué.
Mais est-ce qu'il y a une tolérance quand même de la part des plateformes?
Alors clairement, oui. Pendant des années, il y a eu une tolérance de la part des plateformes parce que l'objectif, c'était de devenir numéro un, pas uniquement en termes d'abonnés, mais aussi numéro un en termes de notoriété. Et d'ailleurs, en 2016, le patron de Netflix avait dit clairement qu'il était content que les abonnés partagent leur code parce que ça prouvait que Netflix était un bon service. Sauf que
depuis
2016, les choses ont changé. Il y a beaucoup de concurrence. Au deuxième trimestre, Netflix a perdu des abonnés. Du coup, ils réfléchissent à une manière de faire payer, vous savez, les passagers clandestins. Alors, ils testent actuellement quelque chose au Pérou, au Chili et au Costa Rica. Dès qu'il détecte un comportement anormal, vous avez une page d'accueil qui est différente et qui vous dit « Et si vous aviez votre propre compte Netflix avec des offres adaptées ?» On sait tous que Netflix réfléchit à une version avec de la publicité qui permettrait de faire descendre l'abonnement mensuel aux alentours de quelques euros, 3, 4 euros probablement, pour attirer justement ses clients.
Est-ce qu'il y a un risque quand même pour ceux qui partagent leur code via les applications?
Alors on va être honnête, légalement le risque est très limité puisque plus d'un tiers des abonnés partagent leur code. Donc effectivement, on les voit mal poursuivre un tiers de leurs abonnés. Puis en termes d'image aussi, ça serait compliqué. Si vous vous mettez à dos un tiers de votre communauté, ça, c'est un petit peu compliqué. En revanche, si vous partagez vos codes, là effectivement il y a un risque. D'abord un risque pour vos données personnelles, puisqu'on peut accéder votre nom, prénom, date de naissance, des choses qui parfois sont suffisantes pour entrer sur d'autres codes. Et puis il y a aussi le risque qu'une personne utilise vos codes, change le code d'accès et vous êtes fermé dehors. C'est un peu comme si vous laissez les clés de la maison à quelqu'un, la personne change la serrure et lorsque vous voulez rentrer, eh bien vous êtes fermé dehors et vous payez juste le crédit de la maison, mais vous ne pouvez plus y entrer.
Ça,
et
ça, c'est
un
risque.
Et ce que nous disent ces applications, c'est qu'il faut faire attention de ne pas utiliser le même mot de passe pour tous les sites. Ça, c'est Anthony Morel vous dirait, c'est de l'hygiène numérique. On le fait tous.
Ah non.
Bravo. Bravo. Parce qu'il y a effectivement des utilisateurs qui ont le même mot de passe pour plein de sites et qui du coup se font craquer pas mal de sites.
Et tu te souviens de tous tes codes?
Bah oui, bien sûr. Bah oui, parce que après les trucs mémotechniques. Voilà. La meilleure. Il faut pas mettre mot de passe 1, 2, 3 non plus, Perico. Ça, c'est très mauvais.
Mais jamais arrivé.
Bah je écoutez,
mets,
tant
4,
mieux.
Je mets 4, 5, 6.
Oui, c'est ça. Donc, le mieux, aller jeter un œil, les sites Split avec 3 I-S-P-L-I-I-I-T. Cher Sub, Cher It, il y en a plein. Là, je vous en donne 3, mais il y a beaucoup plus de sites qui vous permettent de partager vos abonnements à vos risques et périls.
On parle de quoi demain, Stéphane ?
Demain, on parlera de... je ne sais plus.
D'accord. Mais ça...
mais tous les jours, c'est un grand classique.
Mais ce sera certainement très bien. Merci Stéphane Pedrazzi, tous les jours, 13h50, la Minute Conso, dans Estelle Midi.
Demain, on parlera des microdons.
Ah oui, c'est ce qu'on demande à chaque fois qu'on va payer un truc.
Exactement, soit l'arrondi à l'euro supérieur, soit 50 centimes. Vous savez qui est le principal gagnant ? C'est l'État français, parce qu'on n'a plus, du coup, on ne peut plus avoir l'abattement fiscal de 66%
qu'on a normalement. Oui, enfin, quand c'est sur 30 centimes, tu t'en fous un peu de ton abattement.
Mais 30 centimes fois 365 jours ?
C'est vrai, je n'avais pas pensé à
ça. Oui, c'est ce que je disais sur la Tour Eiffel.
Merci d'être là, Stéphane. 13h50, donc dans Estelle Midi, dans un instant. On va parler du boom du tout électrique sur nos routes, voitures, scooters, alors même que les prix de l'électricité flambent. Est-ce qu'on a tout faux là-dessus ? On sera notamment avec Pierre Chasseret, directeur général de 40 millions d'automobilistes. Et puis avec vous, on vous attend nombreux au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.